Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine des 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Une nouvelle semaine des 5 heures qui s'ouvre ce lundi à 19h passé de 5 minutes. Bonsoir mon cher Hugues.
Bonsoir mon cher Rudy.
Dernière semaine des 5 heures avant cette pause de printemps.
Oui, la pause de printemps, oui.
Et une semaine un peu particulière puisque nous aurons une cascade mercredi, mais qui est bien préparée.
Oui, absolument, puisque mercredi nous ne serons pas présents en direct à 19h sur antenne, puisqu'il y a une émission, un débat économique qui est prévu. Mais par contre, les fidèles du podcast pourront retrouver une émission mercredi spécialement destinée au podcast.
Voilà, donc mercredi, on n'est pas on air, on est online, mais 5h sera bel et bien présent ce mercredi, même si vous entendez on air Eddie Kachelbergs pour son débat économique.
Absolument.
Dans le Kachelverse.
Voilà. Ouais.
Absolument. Antoine Duart nous accompagne jusqu'à 20h ce soir. Alors, pour ouvrir aujourd'hui, mon cher Hugues. Oui.
Non, je me grattais là-bas.
Ah
oui, parce que je vois, vous enlevez vos lunettes parce que c'est un gros dossier. Et moi, je me gratte la barbe parce que c'est un gros dossier. C'était un bruitage.
Oui. Enfin, un gros dossier.
Non?
Vous le devinez? Non, oui, c'est un beau dossier.
Ah.
Un beau dossier. On l'a évoqué récemment. C'est l'existence en Angleterre de ce, enfin, à Brighton, puisque la base, le quartier général de ce projet se trouve à Brighton, c'est le Para Orchestra. On l'a évoqué ici, donc c'est un orchestre symphonique, philharmonique, un grand orchestre qui partage ses membres entre une part des musiciens valides et d'autres musiciens moins valides qui ont soit un handicap physique ou un handicap psychologique. Et cet orchestre très très original est dirigé par Charles Hazlewood. Et ils sont partis pour une grande tournée en Angleterre qui a joué partout à bureau fermé. Mmh. Grande tournée pour laquelle ils ont réinterprété de façon avec des arrangements donc appropriés pour l'ensemble imposant qu'ils proposaient, donc de cet ensemble de musiciens nombreux et variés. Ils proposaient des relectures de titres de pop musique.
Voilà. Ah oui.
On avait écouté ici, je pense, un morceau de Icône de Benny Men, justement au moment où les Benny Men sont venus à l'Abbé, et il leur fallait un chanteur pour les accompagné, et c'est Brett Anderson, le chanteur de Suède, qui s'y est collé. Donc il a fait toute la tournée et il a chanté, quand c'était nécessaire, toutes les chansons qui étaient proposées par ce para-orchestra. Énorme succès, et ce succès, très logiquement, a donné lieu à une idée, une envie de disque, et ce disque est arrivé, et sur ce disque on retrouve une partie des chansons qui ont été proposées en live. Il y a des choses assez prévisibles comme voilà, Depeche Mode, on le disait, Icône de Benny Men, mais aussi des chansons peut-être un peu plus inattendues, mais dont la structure, dont le climat se prêtait particulièrement bien à cette réinterprétation. Et justement, on en parlait récemment, la semaine dernière, à l'occasion de la sortie d'un film.
L'ordine del tempo, l'ordre du temps.
Night Porter, oui. Portier de nuit.
Et le film qui est sorti, c'est donc le dernier film de Liliana Cavani.
Liliana Cavani.
Qui est donc la réalisatrice de Portier de nuit.
Oui. Pourquoi je vous en parle? Parce que au répertoire, au programme de ce para orchestra se trouvait la chanson Night Porter du groupe Japan, donc une chanson très très lente, lancinante, un peu comme une marche comme ça, presque marche funèbre, avec un tempo très très lourd, très très lent, chanté à l'époque par David Sylvian. Et c'est donc ici Brett Anderson qui s'y colle, et on a un peu le sentiment qu'il pourrait chanter à peu près n'importe quoi. Il arrive à s'approprier tous les styles, toutes les formes, tous les répertoires, tous les genres. Il est absolument impeccable.
Le Michel Delpech anglo-saxon de la reprise.
Bah, il y a quelque chose de ça, parce que il n'est jamais complètement à côté de l'esprit de la chanson, quelle que soit cette chanson, mais il n'essaye pas non plus de singer ou d'imiter, il se l'approprie véritablement. Et c'est donc la version de Brett Anderson avec le para-orchestra. Ça vient de sortir sur un album qui s'appelle The Dead Song Book, et cet album est désormais disponible avec une part de live et une part d'enregistrement studio. Voici leur version de Night Porter de Chopin. Night Porter, c'est la version du para-orchestra dirigé par Charles Hazelwood avec Brett Anderson, et ça fait partie d'un album de ce grand orchestre particulier natif de Brighton.
Et ça permet de se souvenir de David Sylvian qui est plutôt discret depuis un certain temps. Même si il a participé à l'album d'Isabelle Adjani, ce qui n'a pas aidé à le remettre fort en lumière. Oui, oui, beaucoup de gens ont oublié cet album, pas si vieux pourtant. Alors, je vais démarrer l'actualité cinéma de la semaine avec un blockbuster américain, parce que finalement, il y en a quand même beaucoup, beaucoup moins qui se risquent en salle. Il y en a énormément qui vont directement sur plateforme aujourd'hui, ou qui sont directement coproduits par des plateformes. Récemment encore, Argyle, dont je vous avais parlé, film d'action de Matthew Vaughn, qui vient d'ailleurs directement d'arriver dans l'escarcelle de la plateforme qu'il a coproduit. Alors, donc, j'ai envie de dire, mini-événement, un film hollywoodien, un blockbuster qui arrive en salle. Ça s'intitule The Fall Guy. Et The Fall Guy, c'était le titre originel d'une série que personnellement je n'ai pas L'homme qui tombe à pic, voilà. Entre 81 et 86, série TV avec un acteur de télévision, à savoir Lee Majors.
L'homme qui valait 3 milliards.
Qui était en compagnie de Heather Thomas dans cette série. Le principe de la série, un cascadeur qui menait une double vie, en quelque sorte, cascadeur de jour, le jour, et chasseur de primes la nuit, je pense. Je ne sais pas en dire beaucoup plus. Ça fait partie du patrimoine des séries américaines des années 80.
Écoutez, mon cher Hugues, quand on entend parfois le pitch de certains films que vous nous racontez, je trouve que Cascadeur le jour, Chasseur de primes la nuit, c'est énorme.
C'est
à côté de certains films que vous tentez de nous raconter.
Qui sont un peu rachitiques, voire carrément éthiques, mais pas éthiques avec TH, éthiques comme un os de poulet où il n'y a plus rien à grignoter. Donc, The Fall Guy reprend le nom, en tout cas, du personnage de l'homme qui tombe à pic, à savoir Colt Sivers. Il est incarné par Ryan Gosling. Il est donc cascadeur. Et la doublure fidèle et officielle, une sorte de héros d'action, une sorte de Tom Cruise, qui s'appelle Tom Ryder dans le film, et qui est Tom, pas Tom.
Oui, j'ai compris.
Tom Ryder.
Et Tom comme Cruise.
Voilà, et qui est incarné par Aaron Taylor Johnson, jeune acteur dont on parle énormément ces jours-ci, puisqu'il chuchote son nom, ce n'est jamais que le 57e, pour reprendre le smoking de James Bond. Et donc, ce cascadeur est absolument d'un professionnalisme imparable. Simplement, il va quand même être victime d'un accident. Et pendant cet accident, forcément, il quitte le métier. Il est totalement déprimé et il rompt avec Jody, qui était une assistante réalisatrice incarnée par Emily Blunt. Et des mois plus tard, il est remis de ses blessures, mais il ne veut plus tellement entendre parler de cascade, mais néanmoins il se laisse convaincre par la productrice et l'associé de Tom Ryder en disant « il n'y a que toi qui peux venir nous aider sur ce nouveau tournage ». Il se laisse convaincre et sur ce nouveau tournage, il découvre que Jody, donc son ex-petite amie, est montée en grade, elle est devenue réalisatrice, c'est le premier film qu'on lui confie, et cette réalisatrice n'a pas du tout, cette Jody n'a pas du tout envie de voir débarquer sur son tournage ce cascadeur dont elle a été très amoureuse et qui a rompu de manière tout à fait unilatérale après son accident, n'a plus donné de nouvelles. Et donc, ça crée une ambiance un peu électrique sur le plateau. Alors, l'idée du film est triple. C'est à la fois un film de cascade, parce qu'il va évidemment y avoir des scènes spectaculaires et un hommage à tout ce que les cascadeurs peuvent faire dans les super productions hollywoodiennes. C'est aussi, on l'aura compris, une sorte de rom-com, de comédie romantique, puisque il y a une histoire d'amour qui pourrait ressurgir de nouveau en soufflant bien sur les braises qui ne sont mal éteintes entre Colt Seavers et Jodie, donc entre Ryan Gosling et Emily Blunt, et on rajoute encore une troisième couche, il y a une petite dimension policière, parce que ce fameux Tomb Raider a disparu du tournage depuis maintenant 2 ou 3 jours. Bon, on n'avait pas trop besoin de lui, mais il va devoir réapparaître. Or, il ne réapparaît pas. Résultat, sa doublure, le cascadeur, va mener l'enquête pour savoir ce qu'il est devenu. Donc, ça joue sur 3 tableaux en même temps. On se dit, mais voilà qui est rafraîchissant. C'est un film qui, certes, s'inspire lointainement d'une série télé, mais qui n'est ni un reboot, ni un remake véritable. Il y a un projet de quelque part de comédie d'action. Les scènes d'action sont tout à fait spectaculaires et menées avec beaucoup de maîtrise. Et pour
oui, on voit ça sur l'affiche du film. Voilà. On voit un bras articulé avec un cascadeur. Bah,
c'est un truc de dingue. Je pense qu'ils ont d'ailleurs battu un record de cascade sur le tournage. Ça faisait partie de la publicité du film. On est dans le Guinness Book. On a fait plus de tonneaux avec les voitures que jamais.
Mais on voit ce qu'en principe on ne doit pas voir, à savoir tous les trucs
aussi,
de préparation.
Aussi, voilà, c'est ça. Donc c'est assez astucieux, c'est assez divertissant. Simplement, ça aurait pu être plus spirituel et plus enlevé si ce n'avait pas été dans les mains d'un certain David Leitch. Et David Leitch, on lui doit Bullet Train avec Brad Pitt, on lui doit un John Wick, on lui doit Atomic Blonde, qui n'était pas Charlize Theron mémorable, on lui doit un Fast and Furious, donc c'est un peu une sorte de nouveau Jerry Bruckheimer, avec moins d'explosions, mais avec le même humour lourdingue, et donc quand il y a des références, quand il y a des private jokes, on est ni justement, je citais Matthew Vaughn, on n'est ni chez Matthew Vaughn, ni chez Guy Ritchie, on est plutôt dans le bon gros divertissement qui pèse des tonnes, et on est un peu désolé d'ailleurs de voir des stars aujourd'hui célébrées comme Ryan Gosling ou Emily Blunt.
Oui, Gosling, c'est son retour après Barbie, donc c'est quand même peut-être l'explication d'une sortie en salle.
Voilà, c'est important. Et Emily Blunt, qui a été un peu l'employée du mois chez Disney, hein, elle a fait beaucoup, beaucoup pour Disney. Elle n'a pas seulement fait le bon retour de Mary Poppins, elle a fait une sorte de Jungle Cruise.
Avec Dwayne Johnson.
Ouais, donc là, personnellement, mon petit cœur de cinéphile saigne parce que je trouve que Emily Blunt est quand même capable de est une actrice qui peut être absolument formidable. Et là, les deux sont utilisés dans des rôles où ils pas énormément à défendre, il faut bien le dire. Ils sont là effectivement parce que aujourd'hui ce sont des stars bankable, mais voilà, c'est un peu du je trouve que le divertissement n'est pas à la hauteur de leur talent et de leur charisme. Donc on est devant quelque chose, une fois encore, de relativement rafraîchissant, de divertissant, de familial, mais on aurait aimé que les scénaristes soient avec des références peut-être... Il y a plein de références à des films d'action, mais c'est toujours des références très, très, très bas de plafond. Donc, on est devant quelque chose quand même d'un peu... osons l'adjectif d'un petit peu bourrin dans les références, quoi. Voilà. Mais
votre cœur saigne devant ce film bourrin.
Mais faute de grive, hein, on mange des berles. Donc c'est vrai que si on cherche un divertissement où on en a plein la vue de Fall Guy, quoi.
Congé de printemps qui arrive.
Évidemment. Donc j'hésitais, on peut distribuer soit des Rémi Julienne, soit des Thierry Allard.
Non, des Thierry Allard.
Plutôt des Thierry Allard. Bah, je donne donnerais un Thierry Allard pour ce Fall Guy, donc, qui n'a pas été traduit pour le marché francophone par L'Homme qui tombe à pic. Ils ont gardé le titre original. Probablement que les types ne connaissaient même plus l'existence du feuilleton, ceux qui étaient chargés de trouver éventuellement un titre français. Donc c'est resté de Fall Guy, et donc c'est, comme vous le dites très bien, le retour de Ryan Gosling après son Ken et ses prestations aux Oscars. Voilà la première sortie, certainement la plus médiatisée et la plus couvrante en termes de parc de salles.
Couvrante.
Elle est fort couvrante.
Comme un écran total pour aller à la plage, bien couvrant.
Une couche suffit, c'est une sortie bien couvrante. Voilà, donc avec quoi on démarre la semaine, mon cher Rudy.
Alors mon cher Hugues, à propos de bien couvrant, oui, et de démarrer la semaine, me concernant, la semaine, elle a déjà commencé vendredi, avec la sortie très couvrante du nouvel album de Taylor Swift, The Tortured Poets Department.
47 titres, non?
31. Oui. Je sais pas si je dois vous refaire l'article de A à Z, je pense que
Taylor Swift
a déjà été. Non, de la sortie de cet album. Non, Taylor Swift.
Taylor Swift, je pense que vous suivez le dossier avant tout le monde depuis une éternité.
Oui, oui, oui. Cet album, c'est très, très, très curieux. 31 chansons. Même les fans se plaignent. Non pas de la qualité du répertoire, de la qualité des chansons qui sont livrées, mais de l'ampleur de cette nouvelle sortie. 31 chansons. Je pense que pour la première fois dans l'histoire, on assiste à des fans qui sont eux-mêmes un peu
gavés,
étouffés, étranglés, j'irai pas jusqu'à gaver, mais pourquoi pas, par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à digérer. C'est trop. À un moment donné, c'est trop. Alors, qu'est-ce qui lui est passé par la tête?
Un album. Et il les a écrits quand?
Et c'est ça qui est
le midi, entre deux répétitions, entre deux réglages de lumière.
On sait que.
De sa tournée.
Il est en tournée absolument partout. Là, c'était l'Australie et l'Asie. Oui. Dans 3 semaines, ça sera la première de la tournée européenne à Paris, le 11 mai, à la Défense Arena, où les Américains disent le concert intime de Taylor Swift.
Quoi, seulement devant 60 000 personnes?
Seulement devant 40 000, indoor, alors que tous les concerts se passent en plein air et devant à peu près le double de spectateurs. Donc ça, ils considèrent que c'est un concert intime. Et ce qui est très curieux, c'est que... alors, de quoi ça cause cet album et c'est quoi ces 31 chansons? Elles ont toutes été composées et produite par ses collaborateurs habituels, hein, Aaron Dessner et désormais l'incontournable.
Elle composait elle-même aussi.
Jack Antonoff, mais les producteurs ont mis beaucoup la main à la pâte en studio. Je sais pas, est-ce que elle a confié les enregistrements à ses deux collaborateurs de premier cercle? Elle est venue avec les textes et les voix en dernière minute? C'est possible, en tout cas il est peu probable qu'elle ait passé 3 mois en studio à peaufiner 31 chansons. Et encore, ça c'est ce qui est sorti, il est fort à parier qu'il y ait encore il y a même des éditions spéciales de cet album qui est un quadruple CD, il y a des éditions spéciales avec une chanson supplémentaire qui s'appelle Black Dog, donc on peut imaginer qu'il y a encore d'autres chansons. Et ça cause de quoi? En gros, bah, vous parliez dans ce film The Fall Guy de quelqu'un qui a du mal à se remettre d'une peine de cœur. Ces 31 chansons sont un petit peu un règlement de compte par rapport à une rupture amoureuse d'il y a quelques années avec un comédien. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. Elle est restée quand même 6 ans avec ce gars, et 6 ans quand on en a 34, ça fait quand même une sérieuse tranche de vie. Il s'appelle Joe Alvin, on l'a vu dans des rôles secondaires chez Yorgos Lanthimos. Il était dans Boy Erased de Joel Edgerton, mais à chaque fois il est toujours dans il était chez Claire Denis dans Stars at Noon, et il sera dans le prochain Yorgos Lanthimos qui sera présenté, je pense, à Cannes. Le nouveau Yorgos, voilà. Donc c'est un comédien de second plan.
Ah oui, je l'ai interviewé pour le
vrai
Claire Denis.
Voilà. Oui. Bah, j'imagine qu'à l'époque il était le petit ami de Taylor Swift, et c'est quelqu'un qui vivait assez mal que sa copine soit extrêmement connue, visée. Je sais pas si et lui pas, mais en tout cas, la notoriété des uns ne faisait pas le bonheur des autres. Donc c'était ce fameux Torture Poets Department. Donc ça a amené à une rupture qu'elle a très très mal vécue et donc elle s'en explique pendant 31 chansons. Donc je dirais à ses producteurs, à son entourage, si à un moment donné il y a une panne d'inspiration, il faut très très vite expliquer à Travis Kelce, qui est son actuel boyfriend, qui est un joueur de football américain qui participe au championnat et au Super Bowl, il faut qu'il la quitte tout de suite. Ça va nous donner un coffret de 60 chansons immédiatement disponible. Voilà. Donc, ce qui est très très curieux aussi, c'est que toutes ces chansons, à part un duo avec Post Malone et une autre chanson sur laquelle on va revenir avec Florence and the Machine, on est vraiment dans une écriture qui renoue de nouveau avec ce style très chanson folk sur lesquels il n'y a pratiquement pas de refrain et sur laquelle il y a énormément de textes qui racontent des histoires et on déroule comme ça une histoire façon un peu folk traditionnel américain. Et au moment où elle va justement débarquer en Europe, on a un petit peu le sentiment que c'est une sorte, alors qu'elle a fait énormément d'efforts,
de rétropédalage,
de repli américano-américain.
Moi je trouve qu'elle aurait dû prendre conseil auprès de Carly Simon. Parce que quand ça a clashé avec James Taylor, elle a chanté « You're so vain » et en un morceau,
tout était réglé. Et s'il y avait beaucoup de choses à dire, voilà. Elle a aussi réglé un peu de compte avec Matty Healy, qui est le chanteur de 1975. Voilà donc pour cet album de Taylor Swift, et on sent bien qu'on est passé dans une autre dimension. Elle n'a pas besoin de sous, donc elle ne fait pas ça pour gagner encore plus d'argent. En revanche, l'entourage, évidemment, l'encourage à continuer à travailler et à étoffer le répertoire et à engranger. Sur les crédits de l'album, il y a 3 pages format A4 écrites en tout petit.
Ah oui, c'est la guerre des étoiles, quoi.
Et c'est un générique de Star Wars. Exactement. C'est tous les crédits. On a l'impression que même le type qui a fermé la porte du studio est crédité parce que il risque d'avoir des avocats et si on ne crédite pas,
la porte pourrait se plaindre.
Oui. C'est un autre monde. On a basculé dans un autre monde. 2 choses à dire par rapport à ça, c'est que Beyoncé de nouveau ne va pas dormir parce qu'un
et elle va faire un album de 32 chansons.
Oui, de jazz ou de voilà, où elle va reprendre du Étienne Dao. Enfin, je sais pas, en tout cas, elle va trouver quelque
chose. La parade.
Chose, trouver une parade. Et sur cet album où tout le monde, absolument tout le monde est crédité, il y a pourtant une personne qui n'est pas crédité. Il faut avoir vraiment le livret de l'album en main pour se rendre compte que Emma Stone est créditée sur une chanson.
Ah, sa grande copine.
Sa grande copine. Et probablement toujours copine avec cet acteur Joe Alwyn, raison pour laquelle on le retrouvera peut-être dans le prochain Yorgos Lanthimos, qu'ils auraient peut-être gardé une relation en tout cas amicale. Et sa grande copine qui lui est vraiment venue en aide au moment où elle était très très désespérée de cette rupture avec ce comédien, elle l'a crédité dans une chanson et quand on lui a demandé mais Emma Stone est sur les crédits de la pochette, alors qu'elle est absente des autres mentions sur Spotify et partout ailleurs, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait sur la chanson? Elle dit rien, mais en fait, comme cette chanson, elle m'a été inspirée par un moment très particulier où j'ai beaucoup pensé à elle, je trouvais que malgré elle, elle avait contribué à l'existence de cette chanson, donc je tenais à la saluer pour ça et à lui rendre hommage et à la créditer de façon très très officielle comme co-autrice de la chanson, même si elle n'a rien écrit. En tout cas, c'est elle qui m'a inspiré les choses que j'avais envie de dire. Pourquoi pas?
Voilà.
Et donc, cette chanson est une chanson qui a pour nom Florida, et c'est une chanson, justement, qu'elle partage avec Florence and the Machine. Donc, on va l'écouter, et c'est donc co-écrit, quelque part.
Co-inspiré
par Emma Stone. You can beat the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat. Florida, c'est donc Taylor Swift. Oui, avec Florence and the Machine. Où manifestement son ex-copain l'a envoyé balader alors qu'elle était en concert en, en Floride, et qu'elle devait continuer malgré tout la tournée. Et je pense que Emma Stone lui était d'un grand réconfort.
Bon.
Ce qui explique cette histoire. Et donc on la rappelle, le 11 mai, elle démarre son périple européen.
Intimiste.
Intimiste à Paris, donc on n'a pas fini évidemment d'en parler.
Très bien. Alors, une curiosité tout à fait étonnante, ça porte un titre anglais. Pourtant, c'est un film qui nous vient de Malaisie. Il s'intitule Tiger Stripes, donc les rayures du tigre. Il a eu le Grand Prix. Non, c'est pas juste?
Ça se passe dans une école?
Oui. Vous l'avez vu?
Ah oui, j'ai vu. Ah. Oh, c'est incroyable.
Waouh. Oui.
Enfin, je ne sais pas ce que vous allez en dire.
Mais... Et donc, ça a eu le Grand Prix de la semaine de la critique à Cannes. Donc, on a Cannes, les sorties cannoises, ça s'étale parfois carrément sur une année. Hein. Et donc, de Cannes de l'année dernière. Et pour rappel, la semaine de la critique, c'est une petite sélection off dont le programme est établi par des critiques de cinéma, et c'est là qu'a été montré, entre autres, le film belge d'Alva sur l'inceste, dont on a parlé au moment de sa sortie, et qui s'est retrouvé donc au dernier Magritte. Alors, Tiger Stripes, c'est le premier long-métrage d'une jeune cinéaste qui s'appelle Amanda Nell E. Et il est question on est dans une petite école, dans un village entouré de forêts. Et on suit Zafan, qui a 12 ans, qui vit chez papa-maman, le couple, a priori une vie plutôt ordinaire, plutôt normale. Et ce qui va lui poser problème, c'est qu'elle est la première élève de sa classe à avoir ses règles. Et ça va... d'abord, c'est un changement dans sa propre vie, mais c'est surtout un changement qui va provoquer un autre regard de ses condisciples et qui va la marginaliser de plus en plus. Et il y a déjà la difficulté pour elle de vivre cette puberté, de vivre ce changement d'état. Mais à partir du moment où ça la marginalise, on va voir Zafan qui va changer de nature. Et c'est à ce moment-là que le film devient une sorte de conte fantastique et, j'ai envie de dire, presque comme dans le film français très surcoté, le règne animal, dont on a énormément parlé au moment des Césars, c'est est-ce que l'appel de la nature et la vie sauvage de ce petit village, de la forêt autour du village, ne va pas quelque part influencer non seulement le comportement, mais même le métabolisme de Zafan. Et c'est à ce moment-là que le film vire vers prend une tournure fantastique. Et justement, c'est ce qui fait sa singularité et son intérêt, parce qu'on n'est pas dans un réalisme au ras des pâquerettes sur l'éternel problème de la que peut constituer les différents états de la puberté dans une collectivité, mais c'est de à travers cette mutation fantastique que va traverser Zafan, c'est justement de faire une parabole sur cette adolescence vécue de l'intérieur et en même temps qui suscite la désapprobation et même le harcèlement de certaines de ses condisciples. Et il y a une sorte de mélange de genres totalement étonnant, totalement inattendu et parfois même un peu artisanal. Il faut bien le dire qu'on n'est pas dans des effets spéciaux numériques.
Les ordinateurs sont restés au placard.
Ah oui, on est plutôt dans de la plasticine façon Evil Dead, mais on est dans quelque chose de très 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 artisanal.
Si je peux me permettre.
Ah mais permettez-vous.
Il faut quand même expliquer qu'on est dans une société ultra patriarcale, ultra codée.
Oui.
Ces petites filles vont à l'école voilées.
Oui.
On ne rigole pas avec les codes. Il n'y a aucune sororité, aucune entraide entre elles, il n'y a absolument pas
de solidarité.
Même la mère voit ça de très très loin et ne s'occupe pas de sa fille, qui est un petit peu laissée en plan avec ses problèmes.
Et on est dans une culture, enfin dans une variation de la religion musulmane. Il y a un côté extrêmement strict. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le film va évoquer la présence de gourous. Il y a une sorte de Deus ex machina, une sorte de gourou mystérieux qui va arriver pour tenter de une sorte d'exorcisme. Est-ce que c'est une critique du charlatanisme? Il y a énormément de choses en très très peu de temps dans ce film. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de solidarité, mais en tout cas elle devient très très vite une sorte de rivalité, parce que effectivement on est dans un régime presque, tellement ritualisé que tout écart est à peu près impossible. Il y a ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un...
Il n'y a aucune bienveillance. Elle est harcelée par les copines. Mère, c'est à peine si elle ne le dit pas, va te laver. Et on la voit obligée d'aller laver elle-même ses serviettes hygiéniques. Est quand même dans un monde...
Mais ce qui est intéressant, c'est que ces scènes, à la limite, très réalistes, très terre-à-terre, vont être assez rapidement contrebalancé par cette fantasmagorie qui fait décoller le récit vers quelque chose de plus mystérieux, de plus allégorique et de plus poétique.
En tout cas,
c'est pour ça que c'est plus intéressant.
J'ai jamais vu un truc pareil.
Ah non,
c'est très c'est... très curieux.
Mais ça fait un petit peu penser à la Palme d'Or, les échappées fantastiques de Apichatpong Weerasethakul, oncle Bunmi, qui avait été vu par très 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 peu de monde. Et à l'époque, Tim Burton, qui était président du jury, avait dit « Je n'ai jamais rien vu d'équivalent ». Voilà, et effectivement, il y a de toute façon déjà la prime, on a envie de dire, à la singularité, plus encore que de l'originalité qui sera affirmée comme telle. Il y a une sorte de singularité.
Il y a de l'audace.
Oui, il y a une singularité qui est tout à fait, qui semble tout à fait naturelle et pas fabriquée. On sent que la cinéaste ne prend pas la pose. Elle raconte les choses comme elle a eu, comme elle les ressent. C'est un film beaucoup très très intuitif en fin de compte, pas du tout cérébral, c'est très intuitif, et c'est difficile de ne pas justement s'intéresser au destin et aux angoisses et aux atermoiements de cette Zafane, jeune héroïne de 12 ans. Donc ça a eu le grand prix dans la semaine de la critique, et ça sort ce mercredi, et je donnerais volontiers, vu la dimension cascadeuse de ce récit, je donnerais volontiers de Thierry Allard pour ce Tiger Stripes qui sort ce mercredi.
Et qui vient de Malaisie.
Voilà.
Formidable.
Il y a une chanson, Malaise en Malaisie.
Oui, Alain Chamfort.
Alain Chamfort, Malaise en Malaisie.
Gainsbourg.
Oui, c'est à la limite assez malaisant. Il faut bien dire. Ouais. C'est de la Malaisie malaisante. Voilà. Qu'est-ce qu'on...
Bien.
Et on a encore des artistes qui sortent 31 chansons ou les autres
non,
sont plus modestes.
Mais en revanche, on a des artistes qui ont un rapport direct avec Taylor Swift. Vous savez, ce groupe Paramore, dont la chanteuse est sa meilleure pote, elle va emmener avec elle en tournée en Europe. Récemment, on les avait écoutés parce qu'ils font partie de ces artistes qui ont repris des chansons de Talking Heads à l'occasion de la restauration du film de Jonathan Demme, Stop Making Sense. Et on avait écouté Paramore qui reprenait Burning Down the House. En fait, Paramore ne s'est jamais caché d'être un groupe qui aime Talking Heads et David Byrne. Ils avaient même interprété une chanson des Talking Heads qui avait pour nom Hard Times. Cette chanson, en fait, c'était une chanson originale, mais à la manière de Talking Heads, et qui rendait hommage à David Byrne. Et David Byrne, apprenant l'existence de cette chanson qui parle de lui, qui parle de sa musique, qui parle de son travail, a eu l'idée de la reprendre. Donc il a repris une chanson qui au départ était écrite comme un hommage qui lui était rendu, mais il se l'est approprié, et ça donne donc la version de David Byrne.
C'est une façon intéressante de boucler la boucle.
De Hard Times, exactement, la boucle est bouclée. Hard Times, David Byrne, qui reprend une chanson en hommage à David Byrne.
Au Talking Heads.
Oui.
Ici, on a carrément l'impression d'être dans un inédit Talking Heads.
Oui, c'est un inédit de Paramore qui rend hommage à Talking Heads et à David Byrne, et c'est repris directement par les intéressés.
Alors, vous le disiez, bientôt les vacances de printemps, donc on a du blockbuster hollywoodien, on a aussi des films tout public, des films d'animation, dont un film qui s'appelle Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Et c'est un film en figurine animée, avec de temps en temps, au niveau des techniques, avec de temps en temps des incursions de dessins animés 2D, donc il y a un mélange de techniques. Et effectivement, on va s'intéresser à la fin de la dernière partie de la carrière de Léonard de Vinci, quand il va quitter le giron du pape pour être invité en France à la cour de François Ier. Alors le film s'intéresse à la dimension, ouais, mais comment dire, polytalentueuse de Léonard de Vinci, bon, peintre bien sûr, mais surtout inventeur, recherchiste, faisant des... s'intéressant tout autant aux planètes qu'au corps humain. Et le duo de réalisateurs, il y a un réalisateur américain qui s'appelle Jim Capobianco, qui a travaillé entre autres sur Ratatouille, et un réalisateur français, Pierre-Luc Grangeon. Et ensemble, ils ont imaginé ce film qui est pour moitié didactique, pour moitié fantaisiste. C'est-à-dire que les éléments de la biographie de Léonard de Vinci sont exacts, mais il y a évidemment ce biais de l'animation qui en fait un personnage de vieux sage un peu fantaisiste. Alors c'est assez astucieux, ça on découvre plein de choses. Je me suis simplement demandé un petit peu à quel public ça s'adresse, dans la mesure où
aux écoles. Ah ben non, elles seront fermées pendant le congé.
C'est un peu compliqué pour les enfants, parce que narrativement il y a quand même beaucoup de références à la période de la Renaissance. Enfin, il y a un côté un peu savant, il faut bien le dire, sans mauvais jeu de mots. Et à côté de ça, l'esthétique, elle, est très accessible. On est devant des poupées animées, avec des figurines animées, avec des décors très stylisés. Donc même quand il y a une invention de Léonard de Vinci, on comprend les croquis. Par les croquis, on comprend ce qu'il veut faire. Donc visuellement, c'est très accessible. C'est plus dans le scénario et dans la narration et dans les dialogues que ça paraît relativement complexe. Alors c'est peut-être dans ces cas-là vraiment pour famille, dans le sens où quand l'enfant ne comprend plus, le parent peut lui chuchoter quelques explications à l'oreille pour qu'il continue à suivre le fil de cet étonnant biopic fantaisiste. Voilà, donc je trouve que la tentative est assez méritoire, justement, de ne pas proposer un scénario gnangnan, mais d'aller plutôt vers un personnage quand même absolument fondateur de la Renaissance, de manière ludique. Donc ça tout à, la démarche est tout à fait méritoire. Je vous dis, je suis resté un petit peu dubitatif sur ce mélange
c'est
de genres, ce mélange de genres, mais voilà. Donc les enfants en famille.
On n'est pas sur Il était une fois les découvreurs, vous voyez.
Non, et Albert Barillet de France 3 il y a fort longtemps. Voilà, donc on est quand même avec des scènes parfois assez ludiques, assez drôles, assez inventives, mais la narration, déjà pour comprendre qu'il quitte la cour du pape pour aller chez François Ier. Voilà. Donc, à voir en famille avec des parents bien attentifs qui, de temps en temps, chuchotent des explications aux oreilles des enfants. Ça s'appelle Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Et ça sort également ce mercredi. Et c'est là-dessus que je fermerai la marche aujourd'hui, non sans vous dire qu'il y aura naturellement d'autres sorties évoquées demain.
Voilà. C'est bivouac, mais demain on repart.
C'est juste bivouac.
C'est bivouac.
Et demain, on peut déjà dire qu'on mettra toute la lumière sur un nouveau biopic, là pas du tout en animation, mais avec des acteurs en chair et en os, un biopic sur Amy Winehouse.
C'est fou, vous venez de leur donner une idée, là. Amy Winehouse, le dessin animé, le manga.
Parlez pas de malheur. Donc voilà.
C'est vous qui avez commencé.
On parlera de Back to Black.
Merci Antoine Duarte. On va se quitter avec celui qui, comme beaucoup, prépare les festivals d'été. Donc sortent un titre inédit afin de préparer leur périple d'été. Même s'il n'y aura pas de passage chez nous, je parle de Jamie XX de XX. Il sera au Glastonbury Festival. Là, il sera un peu à la maison. Mais il sera aussi à Chicago, à Inglewood. Voilà, pas de festival en tout cas prévu chez nous sur le continent et donc forcément pas en Belgique. Et sa chanson, enfin son titre inédit pour annoncer ses prestations d'été, ses concerts d'été, s'appelle Buddy on the Floor. C'est Jamie XX et on se dit à demain.
À demain.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.